Place Info.
La cour des Invalides ouverte toute la nuit, donc pour ceux qui souhaitent rendre hommage, un hommage populaire à Jacques Chirac, annonce du gouverneur militaire de Paris sur France Info. Que retiennent les Français de l'ancien président? Quel est son héritage? Vous les entendrez. Nous débattrons également de son bilan à l'international avec nos informés, car demain, la journée de deuil national aura lieu en France, au Liban aussi, pays avec lequel l'ancien président entretenait des relations particulières. Et puis, nous nous demanderons qui sont les héritiers en France du chiracisme. Question posée à Sarah Pinard, directrice des études et prospectives de Via Voice, docteur en sciences politiques. Jean-Christophe Ploquin également présent dans ce studio, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Raphaël Kahn, bonsoir, journaliste présentateur du débat sur France 24. Arnaud Ardouin, journaliste à CNews et auteur de Président, la nuit vient de tomber. À vos côtés également, Catherine Clément, philosophe, écrivain, auteur de Chirac, vie publique, archives privées, préfacée par Alain Juppé. Bonsoir, bienvenue à toutes, à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. La France se recueille donc dans la cour des Invalides, ouverte jusqu'à 6h du matin. A priori, pour ceux qui souhaitent rendre hommage, un hommage populaire à Jacques Chirac, je dis a priori parce qu'elle pourrait même rester ouverte au-delà, si l'on comprend ce que nous dit le gouverneur militaire, annonce tout à l'heure du gouverneur militaire de Paris sur France Info.
Le dispositif est en place pour durer, je dirais, aussi longtemps que nécessaire.
Y compris la nuit,
je dirais, au plus tard, jusqu'à demain matin, où une autre séquence de cérémonie aura lieu. Mais jusqu'à demain matin, le dispositif peut fonctionner tant que les Parisiens ou les visiteurs voudront venir se recueillir.
Au plus tard, jusque demain matin, nous dit le général Bruno Le Ray. Catherine Clément, c'est historique, d'ores et déjà.
Vous voulez dire l'émotion populaire?
L'émotion populaire, oui. Ces foules qui se rendent aux Invalides, du coup, ouvertes toute la nuit.
Je crois me souvenir que la mort de Mitterrand avait remporté la même émotion, soulevait le peuple de la même manière. Non pas pour les mettre à égalité, mais simplement parce que quand un président meurt et qu'il est assez vieux, et puis qu'il a fait deux mandats, ça donne une dimension immédiatement historique, oui.
Raphaël Kahn, ces images, vous les avez vues, vous êtes rendu du côté des Invalides.
Il y a du monde, c'est difficile de savoir exactement combien de personnes, parce qu'en fait, il y a une file indienne très disciplinée, le long de l'avenue de la Motte-Piquet, qui va presque jusqu'à l'école militaire. Donc pour ceux qui connaissent les lieux, c'est vrai que ça fait pratiquement un kilomètre, mais sur une file de personnes. Quoi. Donc c'est très difficile de savoir exactement combien, mais jusqu'à 6h du matin, vous l'avez dit, c'est dire que depuis jeudi maintenant, et ce registre de condoléances qui avait été ouvert à l'Élysée, la foule, ça ne désemplit pas.
Oui. Et on va rejoindre aux Invalides Sarah Tucherer. Bonsoir. Est-ce que, Sarah, de là où vous êtes, est-ce que vous arrivez à voir la dernière personne dans la file d'attente?
Ah non, c'est impossible, la foule est incroyable ici, hein. Les premiers sont arrivés tôt, vers 8h, 8h30, et la file d'attente n'a cessé de s'allonger ensuite, malgré le vent, malgré la pluie, malgré une certaine fraîcheur, la file d'attente s'étire toujours le long de l'enceinte des Invalides, puis plus loin sur l'avenue de la Motte-Piquet. Il faut en moyenne, rendez-vous compte, 6 ou 7 heures pour pouvoir entrer à l'intérieur du monument et s'incliner devant la dépouille de l'ancien chef d'État. Et c'est vrai que c'est comme à l'Élysée, où on a ouvert des cahiers de condoléances. Ces derniers jours, il y a là tous les âges, toutes les origines. Paris, la province, la Corrèze est particulièrement bien représentée. On devine pourquoi. On a également vu quelques têtes connues, des figures politiques peu nombreuses, hein, mais on a croisé Jean-Louis Debré, très marqué, Gilles de Robien, Cédric Villani également. Les autorités, vous le rappeliez, ont annoncé qu'elles laisseraient les Invalides ouverts aussi longtemps que possible pour permettre à tous les gens qui patientent encore de rendre un dernier hommage à Jacques Chirac. Vu la longueur de la file d'attente au moment où je vous parle, ça devrait durer encore un certain temps.
Merci Sarah Tucherer aux Invalides avec les moyens techniques de François Rivalon. À l'ouverture de cette cérémonie, à Arnaud Ardouin, journaliste à CNews, on a vu des représentants des cultes, de tous les cultes, qui ont récité une prière. Jacques Chirac, c'était un président œcuménique d'une certaine façon.
Oui, c'était un président œcuménique qui dépassait largement le cadre du président catholique. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques anecdotes de Bernadette à Bormes-les-Mimosas qui le poussait à l'église en disant « Écoute Jacques, il faut vraiment que tu ailles à la messe ». Donc c'est vrai qu'il est de culture catholique, bien entendu, mais il était ouvert à toutes les religions. Je le raconte dans le livre, il lisait le Coran. Il était très proche de Raïm Korsia, qui devait être d'ailleurs très ému à la lecture du
Justement,
texte.
Justement, c'est ce que je voulais dire.
Catherine Clément.
Chirac l'appelait Rabinou.
Rabinou, absolument. Vous autorisez à le dire, il l'appelait Rabinou, et une précision. Alors, après 2007, il a passé régulièrement, chaque semaine, plusieurs heures avec lui, en tête à tête, dans des restaurants d'abord, puis ensuite...
Il a essayé de le faire marcher aussi.
Et il a, Raïm Korsia a été très présent à ses côtés, et il y a eu des échanges très spirituels, j'ai presque envie de dire un peu ésotériques, sur l'au-delà, sur la vie, sur la mort, et c'était important pour les deux hommes.
Vous évoquez la figure de Bernadette Chirac, elle n'était pas présente aux Invalides. Est-ce qu'on sait si elle sera demain à l'église de Saint-Sulpice, éventuellement en Oradouin ?
Moi, je n'ai aucune information sur sa présence ou pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle est, elle aussi, en grande difficulté sur le plan physique. Et je pense qu'il est très compliqué pour sa fille et pour ses proches de pouvoir, d'un point de vue très physique, la transporter sur place. Je pense que ça serait douloureux pour elle. Elle est probablement passée aux Invalides, où elle passera demain matin voir le cercueil, vraiment dans la plus stricte intimité.
Il y a une cérémonie qui est prévue à 9h30 demain matin, donc qui est vraiment une cérémonie religieuse privée. Et donc, c'est peut-être là que peut-être elle pourra peut-être apparaître. Pour revenir sur la cérémonie interreligieuse. Ouais. Donc, je crois que Jacques Chirac n'était pas quelqu'un de très catholique, si j'ose dire. Hein. Il avait effectivement à la fois un héritage franc-maçon, il avait un héritage très républicain et aussi dans sa famille des personnes très catholiques. Mais je crois qu'il a été vraiment curieux de toutes les spiritualités et de tous les horizons. C'était vraiment quelqu'un qui était curieux des autres civilisations.
Et les récits d'ailleurs que vous faites, de ces conversations avec Raïm Korsia sur la fin de sa vie, rappellent un peu celle de François Mitterrand avec Marie de Wenzel sur l'au-delà. Oui. Il y avait vraiment une quête aussi de spiritualité, de compréhension.
Bon, spiritualité, je ne sais pas spiritualité, je me demande. Je pense qu'il avait d'abord un tropisme vers l'Est, vers la Russie d'abord, parce qu'à très tôt, ce type a traduit Eugène Onieguine, il faut quand même se rendre compte.
Il se faisait envoyer des bulletins...
Attendez, mais il était tout jeune, il était tout gamin, c'est un texte intraduisible. Donc, la Russie. Ensuite, il fait du sanskrit. Ensuite, il va au musée Guimet...
Qu'il abandonne, le sanskrit.
Oui, mais ensuite, il va au musée Guimet comme grouillot, donc bénévole pour ranger des objets. Ensuite, ça va jusqu'au Japon, en passant par l'Inde. Et je crois qu'il est devenu universaliste comme ça. Ensuite, il y a eu l'Afrique. Et moi, je l'ai accompagné au Nunavut, chez les Inuits du Canada.
Et Catherine Clément, cet aspect de Chirac, l'international, on y revient juste après le rappel de l'information, 20h10 sur France Info. Guillaume Fariol, c'est à vous.
Les écoliers, collégiens et lycéens de Seine-Maritime iront tous en classe demain. Réouverture des établissements scolaires après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Selon l'académie, il n'y a plus de risque après les contrôles et nettoyages du week-end. Jusqu'à 230 écoles sont restées fermées juste après l'incendie, jeudi et vendredi. Toujours beaucoup de monde aux Invalides. Ce soir, malgré la pluie, des centaines de personnes viennent encore rendre hommage à Jacques Chirac. Un instant de recueillement devant le cercueil de l'ancien président. Demain, journée de deuil national, avec une cérémonie en l'église Saint-Sulpice. Une trentaine de dirigeants étrangers attendus. Marine Le Pen n'ira pas. La famille est contre. La direction de l'hôpital de Mulhouse réagit après la mort d'une femme en juin dernier. Un arrêt cardiaque alors qu'elle avait appelé le SAMU, mais aucun véhicule des secours n'est venu. Les procédures semblent avoir été respectées. Selon le communiqué de cet après-midi, le médecin régulateur a pris une décision au regard des éléments échangés avec la patiente. Une enquête ouverte pour non-assistance à personne en danger. Un garçon de 11 ans hospitalisé à Reims depuis la mi-journée. Il a été blessé dans l'explosion d'une munition ancienne. Il jouait avec dans le jardin familial près de Troyes. Et puis 1-0 pour Strasbourg face à Montpellier. Victoire de Saint-Etienne contre Nîmes. 1-0 là aussi. Suite de la 8e journée de Ligue 1 de football. À 21h, dernier match. Marseille reçoit Rennes.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Neil Alatrousse.
Guillaume Fariol vient de rappeler à l'instant à cette foule aux Invalides pour rendre hommage à Jacques Chirac. Rien n'était laissé au hasard à l'entrée. Un livret d'une dizaine de pages préparé par la famille. Catherine Clément, philosophe, écrivain qu'il avait connu. Ça ressemble à du Jacques Chirac. Hein. On louait son authenticité, on louait sa spontanéité, mais il détestait l'improvisation. C'était quelqu'un d'extrêmement organisé.
Oui. Mais il était universaliste spontanément. C'est-à-dire qu'il était Inuk chez les Inuits, il était Africain chez les Africains, il était Japonais chez les Japonais ô combien. Il avait, alors c'est ce que les méchants appellent sa plasticité idéologique. Notez comme c'est joli ça, hein.
La plasticité. Vous n'aimez pas ce terme,
hein. Ah, du tout. Ni plasticité parce que ça veut rien dire, ça veut dire qu'il est débile, ni idéologique parce que c'est d'un désuet absolument, c'est suranné ce mot-là. Donc ni l'un ni l'autre.
Alors, Antoine News.
Oui, passons sur cette plasticité pour savoir s'il a été, oui ou non, un bon président. Ce qui, moi, m'intéresse profondément chez cet homme, chez cet être, c'est ce désir d'ailleurs, le désir de réconcilier les civilisations. Il s'intéresse aux arts premiers. Il raccroche au nez de Juan Carlos en 1994, puisqu'il va faire une très grande exposition sur les conquistadors. Et il lui dit, hors de question de donner un espace ici à Paris à ceux qui ont pillé les Taïnos, puisqu'ils leur ont pris leur or. Et les Taïnos, c'était une civilisation extrêmement complexe que personne ne connaissait. Et il a décidé au Grand Palais de faire une exposition sur les Taïnos. Passionnant. Il dit quoi? Il dit, les Taïnos, mais je les réhabilite. Ils sont à égalité des conquistadors. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme pour l'art africain. Au Louvre, il dit, je veux un espace avec de l'art primitif africain. L'art premier. Mais au Louvre, on dit, mais vous n'y pensez pas, c'est pas possible. Et il s'est battu avec le directeur du Louvre de l'époque, l'homme à l'écharpe. Et il va s'imposer. Et on commencera, avant d'imaginer le musée du Quai Branly, d'abord d'installer à côté du Rubens, des Rubens et des tableaux célèbres, et bien on mettra des œuvres d'art premier. Et ça, c'est une bataille chez Chirac.
Et cela fait partie des crédits que lui accordent les Français. On leur a demandé quel héritage ils garderont de Jacques Chirac, plutôt quel héritage Jacques Chirac laisse à la France et quelle image ils garderont de l'ancien président. Et bien, les Français répondent qu'il est pour eux l'un des meilleurs chefs d'État de la Ve République. Regardez.
12 ans après avoir quitté l'Élysée, où il avait connu des records d'impopularité, Jacques Chirac est aujourd'hui le plus apprécié des présidents. 30% des Français estiment qu'il a été le meilleur chef d'État de la Ve République, à égalité avec Charles de Gaulle, et devant François Mitterrand, 17%.
Jean-Christophe Floquin de La Croix, lui qu'on avait accusé à une époque, on se souvient, d'avoir trahi la famille gaulliste quand il avait soutenu Giscard d'Estaing. Réhabilitation posthume, sacré hommage.
Eh oui, donc là, il y a un trait très français, hein, c'est que ça concerne pas que Jacques Chirac, et je pense que l'hommage qui lui est rendu par les Français est très sincère, mais on sait que les Français ont beaucoup d'affection pour les anciens présidents. Pour les présidents en fonction, c'est beaucoup plus compliqué. Imaginez-vous qu'il y a un sondage tout récent qui vient d'indiquer que Monsieur Sarkozy est devenu l'ancien président préféré des Français aussi. Enfin, voilà. Donc lui aussi, alors qu'il a été tellement clivant lorsqu'il était président, aujourd'hui bénéficie d'une sorte d'image de sagesse, de recul, d'expérience. Et ça, je crois que les Français adorent ça. Donc c'est très clair pour Jacques Chirac, ça a fonctionné de cette façon.
Sarah Pinard, vous êtes directrice des études et des prospectives de Via Voix. J'ai presque envie de vous demander, à entendre Jean-Christophe Floquin, est-ce qu'il faut se méfier des sondages sur le coup de l'émotion?
Non, on peut préciser déjà qu'un président en exercice, il a jamais été populaire du temps de son mandat. Un président, quand il entame son mandat, il a grosso modo 55% d'opinion favorable. Et puis il descend, après c'est une longue descente aux enfers tout le long de son mandat, il descend jusqu'à entre 15 et 20% d'opinion favorable. En période de deuil, on est toujours plus prompt à se remémorer les instants positifs plutôt que les échecs. Mais c'est pas spécialement propre à Chirac, parce que déjà en mai 2015, il était à 63% d'opinion favorable. Donc je pense qu'on saluait vraiment la personnalité de Chirac. C'est pour ça que les sondages sont aussi importants aujourd'hui.
Et Catherine Clément, c'est sa personnalité, son style, son bilan qui est salué aujourd'hui. Être au même niveau que de Gaulle,
89, ses grands bras, sa voix, enfin bon, tout un tas de trucs. Oui, mais moi je suis assez attachée à la matérialité des choses en général. Donc quand je dis ses grands bras, ils sont 1m89, je pense que ça jouait beaucoup. Sa grande stature, sa grosse voix quand même aussi. Et le fait qu'il savait... Alors il avait deux langages quand même. Ça s'est atténué un peu vers la fin, mais il avait le langage qu'il parlait à la télévision ou à la radio. Et puis il avait... Le langage qu'il parlait.
Quelle était la différence entre les deux?
C'était pas du tout le même. Non, c'est C'est-à-dire que le langage, je crois que c'est après le service, après l'Algérie qu'il a dû ajuster les deux discours. Et le langage, c'est un langage de Chartier. Il parlait comme absolument avec un mot d'argot à chaque phrase. Après, il se reprenait et disait, oh pardon. Mais bon, il avait vraiment deux. C'était très intéressant et très amusant à écouter ça.
Raphaël Kahn.
C'est quand même un homme de droite qui a fini par s'approprier le peuple de gauche. Il faut se souvenir de ce qu'était Chirac pour l'électorat de gauche dans les années 80. On disait facho Chirac à l'époque. C'était la politique de Charles Pasqua. C'était les noyaux durs d'Édouard Balladur. C'était une politique qui était quand même très éloignée de toute une partie du peuple de gauche en France. Et depuis, il y a eu effectivement Chirac président, il y a eu le non à l'Irak. Et aujourd'hui, on peut même se demander si auprès des électeurs de gauche, il n'y a pas moins de difficultés finalement à apprécier Chirac que Mitterrand avec ce qu'on sait aujourd'hui de François Mitterrand.
Effectivement, une forme de figure rassembleuse. J'aimerais que l'on réentende les Français qui se sont rendus, qui se rendent encore aux Invalides, hein, jusqu'au bout de la nuit, puisque la cour sera ouverte pour ceux qui souhaitent rendre hommage à l'ancien président. J'aimerais qu'on écoute le souvenir qu'il garde de Jacques Chirac.
C'était un être humain, avec l'empathie. Il allait n'importe où, que ce soit un ouvrier avec ses mains sales ou un gars, il était très très bien, il était vers le peuple.
Pour quelqu'un de ma génération, ça a été le président durant de la moitié de notre oui. vie. On a tous des souvenirs incroyables avec M. Chirac. C'était une voix qui nous rassurait, un visage apaisant, rassembleur.
Voilà, il évoque la voix et le visage, hein, pour faire écho aux propos de Catherine Clément. Sarah Pinard, vous me disiez hors antenne, je rappelle, hein, directrice des études et prospectives de Via Voice, docteur en sciences politiques, que pour la génération des trentenaires, en fait, c'est une génération qui s'est éveillée à la citoyenneté avec Jacques Chirac.
Oui, effectivement, c'est pas étonnant en fait que Jacques Chirac ait marqué les trentenaires, parce que on a grandi avec lui. Je vous donne quelques exemples. En 95, quand il est élu, moi j'ai 8 ou 9 ans. Quand en 2002, il est réélu, j'ai entre 15 et 16 ans. Donc effectivement, on n'était pas en âge de pouvoir voter ou pas pour lui, mais ceci dit, on a grandi avec lui. Je veux dire, il a marqué notre enfance et notre adolescence.
2002, ça vous avait marqué, vous aussi?
Oui, oui, bah c'était les premières manifs. Je veux dire, il y a beaucoup, dans les carnets d'ailleurs à l'Élysée, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont marqué.
Catherine Clément, je vais faire écho à un livre.
Je pourrais
que vous
ajouter
avez...
quelque chose, oui, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment une caractéristique de Jacques Chirac qui ressort dans les différents témoignages qu'on entend, hein, sur les radios et nos reporters aussi qui sont allés rencontrer les Français. C'est il n'apparaissait pas comme quelqu'un en surplomb. Il apparaissait au niveau des Français, et le témoignage de la dame le redit, hein, il était à l'aise avec tout le monde. Et ça, je crois que ça a créé une proximité entre Jacques Chirac et les Français, qui était né sans doute avant la présidence de la République, donc, parce que c'est un homme politique qui a une très longue carrière avant déjà. Et donc ça a beaucoup marqué, je pense, les Français, cette proximité.
Et ben justement, ce sera ma prochaine question à Catherine Clément, qui a écrit aussi un dictionnaire amoureux des dieux et des déesses. J'allais vous demander presque s'il y avait quelque chose de transcendant dans cette émotion. Réponse juste après le rappel de l'information, 20h20 sur France Info, Guillaume Fariol.
Les Invalides resteront ouverts toute la nuit s'il le faut, tant qu'il y aura du monde pour venir rendre hommage à Jacques Chirac. Depuis 14h, des milliers de personnes défilent devant le cercueil de l'ancien président. Demain, deuil national avec une cérémonie en l'église Saint-Sulpice à Paris. Emmanuel Macron sera présent, tout comme ses prédécesseurs François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Tous les établissements scolaires de Seine-Maritime seront ouverts demain. Ils ont été contrôlés et nettoyés après l'incendie de l'usine Lubrizol il y a 3 jours à Rouen. Édouard Philippe, le Premier ministre, promet une transparence totale des autorités. Elle était la Miss France 1990. Gaëlle Voiry est morte hier soir percutée par une voiture. Elle circulait à vélo à Champs-sur-Léman, en Haute-Savoie. Le conducteur est en garde à vue. Les conservateurs de Sébastien Kurz en tête des élections législatives en Autriche. Il est bien placé pour redevenir chancelier. Les Verts arrivent en deuxième position. L'extrême droite complète le podium en net recul, conséquence du scandale de corruption de mai dernier. Le Danois Mads Pedersen, sacré champion du monde de cyclisme, il s'impose au terme d'une course dantesque sous une pluie diluvienne dans le Yorkshire au Royaume-Uni. Le Français Julian Alaphilippe, pourtant parmi les favoris des bookmakers, termine à la 28e place. Et puis les Serbes, tombeurs de la France en demi-finale, remportent l'Euro de volley ce soir. La Serbie décroche son 3e titre européen face à la Slovénie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
L'émotion collective en France, à la veille des funérailles de Jacques Chirac. Catherine Clément, juste avant le rappel de l'info, je rappelais que vous aviez écrit un ouvrage sur les dieux et les déesses. Est-ce que dans cette émotion que l'on ressent aujourd'hui collectivement, il y a quelque chose de transcendant, de mystique presque?
Vous voulez pas dire qu'on va le diviniser quand même?
Je n'en ai pas là, mais enfin, dans les propos que l'on entend, il y a quelque chose d'assez
transcendant. Je suis assez méfiante avec l'émotion collective, parce que, rappelez-vous, Adolf Hitler a suscité de grandes émotions collectives.
Donc ça, c'est pas le même contexte. Hein.
Pardon.
C'est pas.
Mais il n'y a pas de question de contexte. Mais... L'émotion collective, elle l'est, et elle est la même chez tous. Et c'est pas, elle n'est pas dépendante de la personne qui l'a fait naître. Donc je me méfie beaucoup des émotions collectives en général. Celle-là est bonne, on l'a cadrée, elle est cadrée surtout. Elle est très bien cadrée par la République, très bien cadrée par la famille Chirac et très bien cadrée par l'Élysée. Mais Point trop, mais il faut quand même.
Jean-Christophe Ploquin, demain, vous le rappeliez, hein, 9h30, l'hommage familial.
C'est ça, il y a d'abord l'hommage, alors une cérémonie religieuse catholique familiale, et ensuite, à partir de 11h, c'est la partie vraiment officielle, et c'est les hommages, les honneurs finalement de la République qui sont rendus, et enfin, à l'église Saint-Sulpice, donc une cérémonie religieuse également qui sera célébrée par l'archevêque de Paris, en présence du président de Macron, et donc d'un très grand nombre de chefs d'État et de gouvernements étrangers. Donc demain, on est vraiment dans la partie plus officielle et les hommages nationaux.
Et l'état de l'opinion fondé par l'Institut IFOP, Jacques Chirac, sympathique, il aimait la vie pour 31% des personnes interrogées, un élu de terrain proche des Français pour 27% d'entre eux, même tonalité que l'on entendait tout à l'heure dans la cour des Invalides. Lui avait théorisé ce besoin de proximité, presque de lien charnel, radioscopie, 1972, c'est une archive. Jacques Chirac, invité de Jacques Chancel.
Il faut avoir une formation politique qui ne peut être acquise que par le contact direct et permanent avec le peuple, et donc par conséquent fondée sur l'élection, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis partisan du scrutin uninominal d'arrondissement. Non pas par référence, là encore, à des critères du passé, mais parce que c'est à mon avis la seule forme de scrutin qui permette d'avoir un contact permanent et direct entre l'élu et l'électeur, sans passer par les prismes déformants des appareils de parti, des désignations, etc.
Arnaud, vous avez écrit sur Jacques Chirac, vous êtes journaliste à CNews, c'est presque du Macron avant l'heure. Hein. Il faut s'affranchir des partis, du prisme déformant des partis.
Oui, d'abord, le grain de voix de Jacques Chirac est quand même incroyable de réécouter cette archive de 72 avec cette voix, parce que la voix, ça compte énormément en politique. Et oui, il avait un côté Macron, je ne sais pas, en tout cas, peut-être que dans 30 ans, on dira qu'Emmanuel Macron avait eu cette intelligence de balayer la gauche et la droite et de ne faire plus qu'un. En tout cas, il avait une forme de pragmatisme, Chirac. C'est pour ça que certains disent qu'il avait une idéologie floue. Il était pragmatique politiquement. Il était capable de s'adapter. Il était Inuit chez les Inuits. C'est un homme qui s'adapte énormément aux situations. Et c'est un homme qui a consacré, évidemment, sa vie à la politique. Mais ce que je vais dire va peut-être vous sembler incroyable. Mais il a consacré aussi une partie de sa vie à la réflexion, à l'analyse d'une œuvre d'art, de s'intéresser aux cochons chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on ne le dit pas assez. Il a bien sûr consacré toute sa vie à la politique. Il a monté les échelons. Mais il y avait chez lui quelque chose comme ça, à la fois de galopin, de très libre, et de très, ça me fatigue, j'ai envie de regarder cette œuvre d'art, il suffit d'aller voir tous ses conseillers. Vous préférez quoi, un homme politique ou d'aller voir un architecte ou un antiquaire? Un antiquaire. Mais oui, parce qu'il adorait ça, voilà. Et il a consacré beaucoup de temps de sa vie à ça.
Raphaël Kahn de France 24.
Oui, on écoute ce que vous dites et on se rend compte, c'est effectivement un caractère indéchiffrable, Jacques Chirac pour les Français, et pourtant très excessivement familier pour beaucoup de Français, ce qui explique d'ailleurs cet hommage, qui est plus d'ailleurs un hommage populaire qu'un hommage à caractère divinatoire, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a un peu de l'hommage à Johnny, ouais. Il y a même un peu du La France de Charlie qui se retrouvait dans les rues, c'est-à-dire un vrai moment de communion nationale, avec un personnage qui a, d'une certaine manière, dépassé la personne de Jacques Chirac lui-même.
Catherine Clément, vous souhaitiez rebondir sur ce
point. Oui, je voudrais rebondir sur quelque chose qui était très privé, mais que ses amis connaissent bien, et que j'appellerais sa charité, au sens chrétien du terme ou athée du terme, peu importe. Moi, je l'ai vu plein de fois venir à l'aide des personnes en difficulté, et je pense particulièrement à la veuve d'un très grand philosophe que j'ai très bien connu, qui s'est trouvée dans le besoin. Tous ces collègues, dont moi, on s'était rassemblés pour faire une collecte, et j'ai demandé si on avait le droit de téléphoner à Jacques Chirac, je l'ai fait, et immédiatement, mais le jour même, il a viré sur le compte de cette dame des sommes énormes, sur son compte privé.
On l'a accusé de clientélisme par moment, mais en fait, c'était quelqu'un
de... Mais c'est pas du tout, c'était son argent privé.
Il avait des gestes de générosité.
C'était son argent privé.
Spontané.
Non, ça, c'est quand même spontané.
Il y a un nombre innombrable d'anecdotes, hein, depuis 48 heures, de personnes qui, dans l'intimité, disent « Jacques Chirac m'a aidé à aider un proche ».
Pierre Péan disait qu'il lui avait sauvé la vie. Pierre Péan vient de la gauche. Il me dit, je viens de la gauche, je fais un livre sur Chirac. Déjà, la famille Chirac hésite à m'ouvrir la porte. La porte s'ouvre et il fait ce livre qui est un livre réussi. Péan a un problème cardiaque majeur. Il manque de mourir. Chirac lui envoie les motards, une ambulance. Il est sauvé. Et Chirac appelle 25 fois, parce que Péan me l'a dit, sur le téléphone de Péan. Ça décroche pas, il est encore inconscient. Une infirmière décroche et il dit, bonjour, je suis Jacques Chirac. Et l'infirmière raccroche.
Jean-Christophe Ploquin.
Oui, alors du coup, tous ces témoignages, moi, ça m'amène vraiment à m'interroger et à la limite à interroger nos chers collègues ici sur cette proximité et en même temps, voilà, la fonction de président de la République, souvent, c'est presque un peu tarte à la crème de dire en France, c'est un peu sacré finalement, c'est un peu la monarchie républicaine. Et moi, ma question, c'était vrai pour Mitterrand, c'était vrai pour De Gaulle. Pour Chirac, j'ai l'impression que ça se joue un petit peu différemment et que c'est plus cette proximité, cette simplicité, cette générosité finalement qui ressort.
Question de Jean-Christophe Ploquin, question analyse, mais question quand même, et on aura la réponse de nos informés du samedi, 20h27 sur France Info. D'abord, la météo et le journal. Mais d'abord le trafic, Diane Sprimon, c'est un peu compliqué à l'entrée de Toulouse.
Et oui, sur la 68 en direction de Toulouse, vous roulez très doucement depuis Montastruc jusqu'à l'Union, où là, il y a un bouchon juste avant le péage. Pareil sur la 61 en direction de Bordeaux. Soyez patient si vous circulez depuis Carcassonne. Dans la capitale, le trafic a repris dans les RER C, D et E. Ils étaient perturbés depuis 16 heures. Mais là, le trafic revient donc progressivement à la normale. Mais sur la ligne D, attention, puisque les trains avancent quand même encore au ralenti en direction de Goussainville, Corbeil et Melun.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
Les prévisions météo sur France Info avec vous, Jean-Michel Golinski.
Ce soir, avec le maintien d'un vent très turbulent sur les côtes de la Manche et de l'océan, il faudra rester prudent et à distance d'une mer toujours potentiellement dangereuse. On notera également pour ce soir et la nuit prochaine de fortes rafales vers 100 km à l'heure sur les massifs de l'Est et en particulier sur les crêtes vosgiennes. Demain sera une journée d'accalmie sous un ciel toujours assez bien dégagé du sud-ouest aux Alpes et à la Méditerranée avec parfois un peu de grisaille en matinée du delta du Rhône au département du Gard, de la Haute-Normandie au Hauts-de-France en descendant vers le Jura, le Massif central et le Poitou-Charentes. Après une matinée plus grise que bleue, l'après-midi sera ensoleillé. Par contre, sur le quart nord-ouest, le ciel chargé sur la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire va tourner à la pluie en seconde partie de journée sur les départements bretons. Les températures sans grande variation par rapport à aujourd'hui et toujours hors saison vont s'échelonner entre 20 degrés en moyenne au nord de la Loire et 28 du sud-ouest au pourtour méditerranéen.
Sur France Info, toute l'information avec vous, Emmanuel Langlois. Bonsoir.
Bonsoir. Une enquête ouverte à Mulhouse, en Alsace, après le décès d'une femme pour laquelle le SAMU n'avait envoyé personne. Son employeur avait appelé le 15, c'était à la mi-juin, pour signaler les douleurs à la poitrine de cette femme de 60 ans. Or, aucun véhicule de secours ne s'était déplacé. La victime a été retrouvée morte chez elle 10 jours plus tard. Mais pour François Braun, le président de SAMU Urgence de France, invité tout à l'heure de France Info, tout a été fait dans les règles.
Lors de cet appel, effectivement, l'acte de régulation médicale a été effectué. La patiente a été en contact direct avec le médecin régulateur. La discussion s'est conclue par un accord entre la patiente et le médecin sur les modalités de prise en charge. Dans les modalités de prise en charge, il y a bien entendu toutes les possibilités, depuis le simple conseil jusqu'à la demande de prendre contact avec son médecin traitant, la possibilité d'envoyer une ambulance ou une équipe de réanimation. Mais ce qui est toujours important, c'est que la décision prise par le médecin est donnée à la personne qui appelle, au patient, à la patiente en l'occurrence, et que l'on cherche toujours un accord entre cette décision et la demande de la patiente. La communication se termine le plus souvent par « s'il y a le moindre problème, vous n'hésitez pas à rappeler le SAMU ». Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de rappel de cette personne au SAMU.
François Braun, président de SAMU Urgence de France. Elle avait été élue Miss France en 1990. Gaëlle Voiry est morte percutée hier soir par une voiture alors qu'elle circulait à vélo en Haute-Savoie. Un deuxième cycliste qui l'accompagnait a été tué dans l'accident. L'automobiliste a été placé en garde à vue. Des larmes, des roses et des gouttes de pluie aussi. Des milliers de Français aux Invalides pour saluer la mémoire de Jacques Chirac. Il continue d'affluer ce soir. L'hommage populaire a démarré par une cérémonie cérémonie interreligieuse devant son cercueil, couvert de bleu, blanc, rouge, entouré de drapeaux français et européens, sous un portrait géant de l'ancien président. Les Invalides qui resteront ouverts toute la nuit, en tout cas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Les conservateurs en Autriche et leur jeune leader Sébastien Kurz, 33 ans, remportent les élections législatives. Ils obtiendraient, selon les projections de la télévision publique, un peu plus de 37% des voix. Le Parti social-démocrate SPE arriverait lui en deuxième position avec 22% des suffrages contre 16% à l'extrême droite, en recul de 10 points par rapport à 2017. L'étranger encore et ses violents affrontements à Hong Kong entre manifestants pro-démocratie et la police. Le week-end a été marqué par un regain de la mobilisation, ce qui inquiète Pékin qui célébrera mardi après-demain le 70e anniversaire de la fondation de la Chine populaire. Un mot de football, et Strasbourg qui bat Montpellier 1-0 lors du premier des trois matchs au programme de ce dimanche en Ligue 1, fin de la 8e journée. Après 6 matchs sans victoire, Saint-Etienne s'offre un léger répit en s'imposant à Nîmes 1-0. Marseille et Rennes s'affrontent tout à l'heure à 21h au stade Vélodrome.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Avec Sarah Pinard, directrice des études et de la prospective chez Via Voice et docteur en sciences politiques, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Raphaël Kahn, journaliste présentateur du débat tous les soirs sur France 24, Arnaud Ardoin, journaliste à CNews et auteur de Président, La nuit vient de tomber. Catherine Clément, philosophe, écrivain, est avec nous également, auteur de Chirac, vie publique, archives privées, préfacée par Alain Juppé. On continue à se pencher sur le bilan de Jacques Chirac, le président, le maire de Paris également. La création du SAMU social dans la capitale s'est faite sous son mandat. Et ce matin, Xavier Emmanuelli, l'un des cofondateurs, racontait comment il avait convaincu Jacques Chirac. C'était sur France Inter, écoutez.
Un matin, il m'a reçu à la mairie avec ses conseillers, ses fonctionnaires. J'ai dit, alors, docteur, expliquez-moi. J'ai dit, écoutez, monsieur le maire, c'est comme s'il y avait des gens illégitimes sur la terre. Et là, il a fait un bond. Quoi, illégitime? Mais j'ai dit, personne s'en occupe. Tout bim, on va le faire, votre truc. Il avait bondi de sa chaise. Il dit, c'est pas possible qu'il y ait des gens illégitimes. Il a dit, on va le faire. Et ceux-là, il m'a montré ses fonctionnaires, ceux-là vont mettre les bâtons dans les roues, je pense. Vous m'appellerez.
Arnaud Ardoin, Jacques Chirac, c'était un peu l'élu des bobos du quotidien aussi. Oui, on évoque beaucoup sa stature internationale, mais il y a aussi cet aspect très les problèmes concrets quoi, du quotidien.
Bobo, c'est pas le mot honnêtement que j'utiliserais. Moi, je trouve qu'il y a de la gauche dans la droite de Chirac. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... et c'est en ce sens-là que beaucoup étaient un peu perdus sur sa ligne idéologique, parce que quand il s'intéresse aux personnes handicapées et qu'il dit « je vais créer des centres en Corrèze parce que c'est inadmissible que ces personnes... » Il n'en a jamais parlé, ou très peu. Quand il s'intéresse à ces personnes dans la rue, bah oui, ça peut être considéré comme des mesures de gauche, des mesures sociales. Chirac les a prises. La taxation des billets d'avion, vous savez, c'est une grande idée. Ça aussi, c'est une mesure qui peut être... voilà, qui était une idée nouvelle. L'idée, c'était de prendre de l'argent sur un tout petit peu, et avec ça, on pouvait faire
financer
avancer...
Financer un fonds.
Voilà, un fonds. Johannesburg, la maison brûle. Tout ça, c'est des idées aujourd'hui, mais... Voilà, Chirac, c'était ça. Il avait des colonnes vertébrales. Il voulait l'égalité entre les êtres, il voulait le rassemblement. Il voulait pas de guerre, paradoxalement. Il a adoré faire la guerre d'Algérie, mais il voulait la paix. C'est un homme de paix.
Jean-Christophe Ploquin, ça rejoint un petit peu votre une de demain à La Croix. Hein. Les Français et leur président si loin, si proche. Pourquoi ce choix ?
Alors, si loin, si proche, si loin d'abord parce que finalement la Ve République a créé effectivement un président de la République qui est élu au suffrage universel, et donc il y a cette fameuse expression l'onction du suffrage universel. L'onction, avant c'est l'onction royale, hein, c'était une sorte d'huile qu'on mettait sur le front du roi, et c'était censé venir de Dieu. Et donc finalement aujourd'hui, quand on parle d'onction du suffrage universel, c'est bien pour dire le fait d'être élu avec plus de 50% des voix, ça vous donne une force, ça vous donne une autorité. Et ensuite, il y a tout un protocole républicain qui s'est mis en place à travers les âges et qui a fait du président, en quelque sorte, quelqu'un, une personnalité en majesté. Mais si proche aussi, parce qu'on a vu un petit peu ce modèle évoluer. Certains disent le quinquennat, par exemple, a contribué aussi à désacraliser un petit peu la présidence de la République, parce que du coup...
Il porte une part de responsabilité.
C'est ça, voilà, absolument. Ouais. Et donc, effectivement, ça fait coïncider l'élection des députés avec celle du président de la République. Et puis, on voit bien que la démocratie directe, les réseaux sociaux, obligent maintenant, y compris les présidents de la République, à avoir des contacts immédiats avec le peuple. Donc, on est bien dans cette tension que, là aussi, le président Chirac a incarnée.
Sarah Pinard, docteur en sciences politiques, c'était le dernier président du temps long, Jacques Chirac, d'une certaine façon.
Oh, du temps long, oui, effectivement, parce qu'il n'était pas confronté à la problématique des réseaux sociaux. Oui. À titre d'exemple, Facebook naît en 2004, atterrir dans l'hexagone français en 2008, c'est déjà, enfin, Jacques Chirac est déjà parti, je veux dire. Twitter, c'est pareil, ça arrive en France en 2007. Oui. Donc, on est déjà à la fin, si vous voulez, du quinquennat de Jacques Chirac.
Et donc, il n'est pas soumis à l'instantanéité
Non, pas l'instantanéité, pas les petites phrases, les petites photos qu'on peut prendre comme ça et qu'on peut lui reprocher par la suite. Donc, forcément.
Et il appelle la souris le mulot.
C'est vrai. Il avait, alors après François Mitterrand, sur le conseil de Jacques Pilon, Jacques Chirac lui-même en a utilisé les services de Jacques Pilon et a théorisé après François Mitterrand à la parole rare. Aujourd'hui, avec les institutions et la présidentialisation du régime, ce serait totalement incongru.
Et demain, à Paris, une trentaine de chefs d'État seront présents pour les funérailles de Jacques Chirac. Parmi eux, Vladimir Poutine, le président russe, le président italien également, Sergio Mattarella, le président congolais Denis Sassou Nguesso, car Jacques Chirac entretenait une relation particulière avec le continent africain.
Le Jacques Chirac de l'Afrique, c'est celui qui nous a permis de conserver notre héritage. Ce que nous a laissé nos parents. Quand vous allez à Quai Branly, si ce n'était pas Jacques Chirac, on l'aurait tout perdu.
Catherine Clément, l'expression Jacques Chirac l'Africain, elle est usurpée ou elle décrit une réalité?
Pas plus que le japonais.
Ou le chinois.
Ou le chinois. Donc ou l'indien. Moi, j'ai beaucoup vu en Inde et c'était pareil. Il m'avait beaucoup frappé. Je l'avais accompagné en 98, je crois, dans un voyage officiel. Et c'était, le premier ministre était un militant du Congrès, un sikh. Et il a été voir le chef de l'opposition, l'opposition qui est en ce moment au pouvoir, qui est nationale extrémiste de droite, anti-musulmane. Et il avait tout de suite repéré que le type de l'opposition était un facho. Il m'a dit, c'est un facho ce type, hein. Ben oui, en effet.
Il sentait. Il avait une perception très... Là, je reviens à la Corrèze, parce que tout ça est lié, une espèce de racine de la terre, de la nature, de quelque chose de simple. Je pense que c'est quelqu'un qui avait une intuition et qui avait une sorte de force intérieure qui était assez naturelle chez lui, qu'il n'a pas cultivé en faisant l'ENA ou en allant à Sciences Po. Il a un peu été poussé par son père, parce que il avait une intuition. Je relate une anecdote dans mon livre qui peut paraître totalement dingue, mais qui m'a été relatée et qui est réelle. Pierre Bédier est entre la vie et la mort. Cet homme a été ministre de Chirac, secrétaire d'État, aujourd'hui président du conseil départemental des Yvelines. Cet homme est entre la vie et la mort. C'est un grognard du RPR. Jean de Boyhut, célèbre Jean de Boyhut, est en campagne dans l'Essonne. Chirac vient le voir. Il vient faire campagne. Et il lui dit, mais pourquoi tu pars à 13h? Il lui dit, je dois retrouver Pierre Bédier à l'hôpital. Il lui dit, ah bon? Il lui dit, je crois que je peux lui faire du bien. Et quand je demande à Pierre Bédier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, à l'oreille, dans cette espèce de conscience, de demi-conscience, il lui a dit, je te donne de la force. Je vais te transmettre cette force et tu vas vivre. Et il a appelé la fille de Bédier, qui s'en souvient, elle avait 12 ans. Et il lui dit quoi? Et il lui dit, ne t'inquiète pas, ton père ne mourra pas. Je suis un sorcier corrézien. C'est pour ça que j'associe le mot sorcier, l'Afrique, et corrézien. Et son grand-père a probablement été un homme essentiel à sa vie, donc le côté laïque en l'occurrence là.
Le
radical socialiste, la nature, la terre. Et ça, Bédier ne le conteste pas. Lui-même était très surpris de tout cela. Et 2 jours plus tard, alors qu'il était entre la vie et la mort, il est sur pied. Alors vous allez dire, on ne va pas canoniser Jacques Chirac, mais néanmoins, cette anecdote raconte quelque chose de cet homme.
Jacques Chirac, le corrézien raconté par Arnaud Ardouin, et le Jacques Chirac, l'international, dont nous continuons à débattre juste après le rappel de l'information. Il est 20h40 sur France Info, Guillaume Fariol.
La direction de l'hôpital de Mulhouse donne quelques explications après la mort d'une femme de 60 ans en juin. Un arrêt cardiaque, elle avait appelé le SAMU qui n'est pas venu. Selon l'hôpital, il y a bien eu un échange téléphonique entre la patiente et le médecin régulateur. Il a ensuite pris une décision qui semble conforme aux procédures. Une enquête ouverte pour non-assistance à personne en danger. Marine Le Pen n'ira pas demain à l'église Saint-Sulpice pour l'hommage à Jacques Chirac. Elle renonce après les réserves de la famille de l'ancien président. Il ne souhaite pas respecter les usages républicains, dénonce la présidente du Rassemblement National. En ce moment, hommage populaire aux Invalides, des milliers de personnes se recueillent devant le cercueil de Jacques Chirac recouvert du drapeau français. Après des contrôles et un nettoyage tout le week-end, tous les établissements scolaires de Seine-Maritime seront ouverts demain, annonce de l'Académie, 3 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Une fois de plus, de violents affrontements à Hong Kong cet après-midi, des échauffourées pendant une nouvelle manifestation pro-démocratie
démocratie, des milliers de militants anti-Pékin rassemblés. Huitième journée de Ligue 1 de football, Saint-Etienne respire après 7 matchs sans victoire. Les Stéphanois s'imposent à Nîmes 1-0. Victoire aussi pour Strasbourg à domicile contre Montpellier 1-0 également. Et puis à 21h, Marseille reçoit Rennes.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neila Latrousse.
Jacques Chirac, le corésien, nous disait Arnaud Ardouin, l'asiatique, le chinois, rappelait la philosophe et écrivain Catherine Clément, Jacques Chirac, l'africain également, le libanais, Saad Hariri, premier ministre du Liban, sera demain à Paris pour les funérailles de Jacques Chirac. Écoutez, réaction depuis Beyrouth à l'annonce du décès de Jacques Chirac.
Dans des moments très difficiles, comme l'assassinat de mon père Rafik Hariri, le président Chirac était le lendemain au Liban. Et il s'est tenu sur le, juste à côté de la tombe de mon père. Et il était là avec nous comme famille. Il a dit toujours que cet assassinat ne passera pas. Il y aura un tribunal international. C'est quelque chose de personnel pour lui, mais aussi pour le Liban.
Raphaël Kahn de France 24, dans ce Jacques Chirac à l'international, il y a une constante, la francophonie. Il croyait profondément en fait, au rôle du français, de la langue d'un point de vue diplomatique.
Oui, il a longtemps cultivé les amitiés de la France. Alors c'est d'abord un héritier du gaullisme. Hein. Il y a quand même une continuité de ce point de vue-là, notamment dans la politique africaine de la France qu'a contribué à perpétuer sous Jacques Chirac, Michel Roussin notamment. Et puis il y a ces liens effectivement très forts avec le Liban. Il faut se souvenir effectivement qu'à la suite de la mort de Rafik Hariri, Jacques Chirac avait réagi de manière extrêmement virulente et il a fallu attendre Nicolas Sarkozy pour que la France tente une reprise de normalisation de ses rapports avec la Syrie, non plus d'Hafez al-Assad, mais de Bachar al-Assad.
La Syrie qui était soupçonnée d'être derrière l'assassinat de Rafik Hariri. Jean-Christophe Ploquin de la Croix.
Et pour suivre sur cet épisode, Jacques Chirac a décidé, justement, il était tellement dévasté et en colère après l'assassinat de Rafik Hariri, du premier ministre libanais de l'époque, et tout le monde suspectait la Syrie. Et donc, il y a eu une action diplomatique extrêmement forte de la France qui a été déclenchée avec les États-Unis. Et un an après, l'armée syrienne qui occupait le Liban depuis plusieurs décennies a quitté le pays. Et ça, c'est vraiment la détermination de Jacques Chirac en tant que président de la République française qui a conduit à ce résultat.
Jean-Christophe Ploquin qui évoque la détermination, Catherine Clément. Il y a également dans cette histoire-là ce lien, cet attachement de Jacques Chirac à des valeurs, l'amitié, la loyauté, la fidélité en politique et aussi au niveau des relations internationales.
Avec les humains, l'amitié entre amis. Un culte de l'amitié, ça ne veut pas dire l'amitié entre les peuples systématiquement. L'amitié entre les peuples, c'est un terme diplomatique qui n'a pas bonne presse. C'est assez éloigné quand on dit l'amitié entre les peuples. Mais là, il s'agit d'une amitié personnelle.
Et cette amitié-là, politiquement, elle, on l'a vu à l'international avec le cas Rafik Hariri, mais aussi au niveau de la politique nationale, il n'a jamais lâché ses amis. Hein. Vous évoquiez Pierre Bédier il y a quelques minutes.
Mais il a été lâché par des amis, en revanche.
Il a été beaucoup trahi.
En 95.
Oui, il a été trahi, oui.
Il est seul.
En Ardouin.
En 95, il est seul. Il est 94-95, c'est un homme seul. Il a trois grognards autour de lui. Il a Jean-Louis Debré avec qui il fait des blagues et que Jean-Louis Debré relate. Hein, si je ne suis pas élu, tu monteras une agence de voyage, j'ai un projet pour toi. Tu tiendras l'agence et je ferai des voyages. Donc ça raconte Chirac. C'est quelqu'un qui a aussi, comme disait Juppé, la tentation de Venise. C'est quelqu'un qui est quand même aussi absorbé à l'idée de vivre autre chose. Et en même temps, il ne vivra que de la politique. Mais c'est un homme qui est habité par autre chose. Mais sa vie quotidienne, c'est la politique. C'est harassant, c'est difficile pendant presque 40 ans. Donc il est toujours déchiré, Jacques Chirac. Il a un désir d'être libre, prenant sa petite voiture et quittant l'Élysée tout seul. Évidemment, on est à la préhistoire, il n'y a pas Internet. Mais il prend sa petite voiture tout seul, sans garde du corps.
C'était pas en scooter.
Et pas en scooter. Et il va vivre sa vie, discrètement. Plus possible aujourd'hui. Et c'est un homme libre. Laissez-moi libre. Voilà. Il y a de ça chez Jacques Chirac.
Et peut-être que cette liberté, c'est aussi ce que lui reconnaissent les Français quand on leur demande ce qu'ils retiennent. 71% retiennent le non à la guerre en Irak en 2003. Raphaël Kahn de France 24, est-ce que ça veut dire que un président, in fine, reste toujours jugé sur la stature qu'il donne à l'international, sur sa représentation de la France dans le concert des nations?
Là, il a eu quand même un flair énorme, parce que d'abord, il sent que ça va être une aventure qui va mal se terminer. Il lave de manière presque pressionnante, parce qu'il décrit les étapes à ce moment-là, notamment à ses homologues britanniques et américains, l'énorme erreur qu'ils vont commettre.
Ce sera le terrorisme, oui. Ce sera la déstabilisation de la région.
Il avait compris que le nation building, ça n'existe pas. Sans doute aussi instruit de ses propres rapports, c'est-à-dire l'idée que chaque civilisation a ses propres caractéristiques, il n'y a pas de supériorité inhérente à la civilisation occidentale, entre guillemets, et sans doute que ça a nourri aussi sa réflexion sur la guerre d'Irak et surtout l'après de la guerre d'Irak. Ça a posé sa stature, et puis il a senti qu'il était en adéquation avec les Français. C'était pas évident, parce que faut se souvenir que la première guerre du Golfe, celle du début des années 90, avait été extrêmement populaire chez les Français.
Et peut-être aussi que Jacques Chirac, dernier président qui avait connu la guerre, avait cette expérience-là aussi. Maurice Gourdeau-Montagne, qui était sherpa du président à l'Élysée entre 2002 et 2007, qui est aujourd'hui secrétaire général du Quai d'Orsay, raconte ceci. Dans le journal de dimanche, la première chose qu'il m'a dite quand je suis arrivée à l'Élysée en 2002, c'est qu'il souhaitait qu'on réfléchisse à un traité d'amitié avec l'Algérie, dont il savait la singularité de la relation avec la France. L'année suivante, il se rend à Alger, il serre la main de Zohra Drif, militante du FLN, qui avait, souvenez-vous, Zohra Drif, qui avait tué des Français, qui avait perpétré un attentat à la bombe, militante FLN, contre le Milk Bar en 1956, où il y avait eu effectivement des victimes françaises. Et il dit à Zohra Drif, seuls ceux qui ont fait la guerre peuvent faire la paix. Ce sont des mots, Jean-Christophe Ploquin, qu'on n'a presque plus entendu derrière chez un autre président de la République.
Oui, alors Jacques Chirac avait une relation très charnelle, on en revient encore là, à la terre d'Algérie et sans doute aussi aux Algériens. Je pense qu'il a quand même eu une stratégie très complexe. Il n'a jamais voulu rentrer dans une démarche de repentance, par exemple, ce qui a taraudé un peu plus Nicolas Sarkozy ou François Hollande ultérieurement. Et donc, pour lui, la guerre, c'était la guerre, et il fallait pas revenir là-dessus. Simplement, effectivement, il a cherché à avancer. Il a été bloqué par une partie de son camp qui refusait absolument des démarches justement de pacification avec le régime algérien. Mais voilà, donc Jacques Chirac a incarné un peu une ambivalence française par rapport à l'Algérie. Et pour revenir sur la dernière phrase, on fait la paix qu'avec ceux avec qui on a fait la guerre. J'espère que c'est pas toujours que ça. C'est-à-dire, parfois, il faut aussi des gens qui n'ont pas fait la guerre, qui sachent faire la paix.
Catherine Clément, écrivain, philosophe. Jacques Chirac, c'était davantage un faiseur de paix. Il l'a répété encore dans le livret qui est donné aux Français, aux Invalides.
Ça l'est devenu. Il a quand même été soldat, capitaine pendant la guerre d'Algérie. Ça n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il a peut-être adoré la faire, c'est vrai. Mais enfin, il était dans la guerre.
Il y a un parcours.
Et dans la Deuxième Guerre mondiale, il a quand même vu l'écrasement de la flotte à Toulon, la submersion de la flotte à Toulon, et c'est quelque chose qui l'a vivement marqué. Il avait 9 ou 10 ans, mais ça a été très important.
Dans une propriété,
ça a été très important pour lui. Il a quand même eu un traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Il était très près. Il était à quelques centaines de mètres, donc ça lui a fait très peur. Ça fait beaucoup de bruit. Faut savoir ce que c'est qu'un bombardement quand on en reçoit un sur la tête. On l'oublie pas.
Mais comme président, à part le Kosovo, on peut pas dire qu'il ait présidé à une intervention militaire durant sa présidence, en tout cas.
Effectivement,
mais il y a eu le Kosovo, justement.
À part le Kosovo.
Oui, c'est important, le Kosovo.
Dans le cadre de l'OTAN.
Oui.
Pas seul.
On se demandera débat sur Chirac. Chirac est-il un homme de paix ? Je vois que ça fait débat sur le plateau. On poursuit le débat dans quelques secondes avec vous, Catherine Clément et Raphaël Kahn et nos autres invités, 20h50, sur France Info, le rappel de l'information, Guillaume Fariol.
La nuit est tombée, il pleut et pourtant toujours une longue file d'attente devant les Invalides à Paris. Des milliers de personnes rendent hommage à Jacques Chirac, des au revoir, des signes de croix ou des selfies devant le cercueil de l'ancien président. Les Invalides resteront ouverts tant qu'il y aura du monde. Demain, cérémonie en l'église Saint-Sulpice à la mi-journée à Paris. Une trentaine de dirigeants étrangers attendus. Emmanuel Macron sera là, mais pas Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National renonce face aux critiques de la famille Chirac. Le Premier ministre Édouard Philippe promet une transparence totale après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Les résultats des derniers tests de l'air sont sur Internet, qualité normale selon les autorités. L'Académie annonce ce soir que tous les établissements scolaires seront ouverts demain après des opérations de nettoyage ce week-end. Tariq Ramadan soupçonné de 2 nouveaux viols. L'enquête qui vise l'islamologue suisse est élargie. Les faits remonteraient à 2015 et 2016. Il est déjà mis en examen pour 2 autres viols.
Un revers pour l'extrême droite autrichienne aux élections législatives aujourd'hui. Le parti de la liberté pour l'Autriche arrive en troisième position. Net recul après un scandale de corruption au printemps. Les conservateurs remportent le scrutin. Élection marquée par une poussée historique des écologistes. Une journée de souffrance. Voilà comment Julien Alaphilippe résume le championnat du monde de cyclisme. Le Français termine 28e après une course sous une pluie diluvienne dans le Yorkshire au Royaume-Uni. Le Danois Mads Pedersen, sacré champion du monde.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Une trentaine de chefs d'État à Paris demain pour les funérailles de Jacques Chirac, dont Vladimir Poutine, le président russe. Raphaël Kahan, on est étonné par le niveau de représentation des États-Unis. Pas le vice-président, oui. Pas le président. Est-ce que cela s'explique par les relations ombrageuses que Jacques Chirac a pu entretenir par moment avec les dirigeants outre-Atlantique?
Alors, s'agissant de Poutine, il y avait cette proximité avec Helsinki, en fait, hein, qui était très forte pour Jacques Chirac. On se souvient d'ailleurs dans le débat avec Lionel Jospin, il avait cité notamment des chants patriotiques russes concernant la Tchétchénie, qui avait semblé légitimer un peu l'intervention russe là-bas. Donc bon, sur les États-Unis, bah écoutez, non, c'est pas très surprenant parce que je suis pas sûr que Jacques Chirac ait laissé une très bonne image finalement aux Américains entre la reprise des essais nucléaires pour la gauche américaine et ensuite la guerre d'Irak pour la droite américaine. Il s'est fait quand même beaucoup d'ennemis.
Arnaud.
Lui a beaucoup aimé les États-Unis puisque très jeune, bien avant de partir en Algérie, il est fiancé avec Bernadette. Il part faire pour Sciences Po un stage d'études sur l'hydrologie, les réseaux hydrologiques dans les États du Sud. Et il tombe follement amoureux de Florence Hurley, qui est une fille de sénateur. Et il fait des balades en décapotable. Il aime les États-Unis, il aime la langue, il aime ce pays. Alors après, évidemment, il ne sait pas à ce moment-là, quand il a les cheveux au vent, qu'il va être président de la République. Puis son père lui dit « Non, tu ne pourras pas vivre avec cette jeune Florence. Tu es déjà fiancé avec Bernadette. »
Et il revient et en France.
Et oui, il écoute son père.
Et il revient en France et la suite de son destin s'inscrit dans l'Hexagone. En France, justement, qui pour incarner la relève, qui pour incarner le chiracisme? Jean-François Copé, tout à l'heure, maire de Meaux, évoquait une école Chirac. Écoutez.
Il y a une école Chirac. Mmh. C'est-à-dire que cette attention aux autres, cette manière de se comporter est quelque chose qui nous a énormément marqué par rapport à ce qu'on a pu voir avec d'autres responsables politiques.
Jean-Christophe Ploquin de la Croix, il y a une école Chirac, il y a eu beaucoup d'élèves et aujourd'hui pas beaucoup de professeurs.
Ah, c'est bien résumé. Je n'ai rien à ajouter. Non. Mais c'est vrai qu'il y a toujours évidemment des personnalités politiques aujourd'hui dont on sait qu'ils ont été très proches. Hein, François Baroin, là aussi, on est vraiment dans le contact affectueux entre les deux hommes.
Filiale même.
Filiale, voilà, absolument. Il y a d'autres
je
leaders politiques.
Comme un fils, écrit,
oui, c'est
François
ça. Et effectivement, Jean-François Copé se sent en proximité et on peut le comprendre. Bon, il y a Alain Juppé, mais qui est une autre génération. Mais qui incarne aussi vraiment une fidélité au chiracisme. Mais voilà, je pense que le sarkozysme est passé et aujourd'hui, la droite est dans un état qui a été démontré notamment lors de l'élection des élections européennes. Donc aujourd'hui, il y a peu de figures qui peuvent prétendre véritablement porter le flambeau du chiracisme.
On ne sait pas s'il y a une école Chirac, mais si c'est, comme le dit Jean-François Copé, la générosité, la spontanéité, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup séché les cours, Jean-François Copé.
C'est un peu gratuit, Raphaël Kahan, quand même. Arnaud, petite question. Est-ce qu'il avait à cœur, justement, Jacques Chirac, dans ces dernières années, dans ces derniers mois, peut-être à l'Élysée, de laisser un héritage à des successeurs politiques?
Moi, je pense que Jacques Chirac n'a pas ciselé sa statue comme a pu le faire Mitterrand, puisqu'il y avait vraiment une filiation mitterrandienne, là, en l'occurrence. Jacques Chirac, je pense que la Chiracie est morte avec Jacques Chirac, c'est-à-dire... Il n'y a plus aujourd'hui de Chiraciens. J'ai envie de penser à François Baroin qui dans mon livre me raconte ce moment incroyable où Jacques Chirac vient annoncer la mort de son père et François Baroin est là sur le canapé, c'est un enfant. Il vit ce moment-là. Il y a l'épouse qui est là, qui regarde Jacques Chirac. Enfin, Jacques Chirac, c'est ça. C'est ce qui reste dans les yeux de Baroin et de François Baroin quand il me parle de Chirac, c'est ça. Qu'est-ce qui reste du chiracisme? Objectivement, il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui ont basculé dans la Macronie, pour le dire un peu simplement, pour faire un petit peu réel politique. Jean-François Lamour a été battu, François Lamour, un proche de Chirac, a été battu par Rue Granson dans le 15e arrondissement. Et c'est un Chiracien de la première heure. Il adore Chirac. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de mouvement de Chiracien qui va perdurer. Non, il restera l'âme de Chirac, vraiment, de ce qu'il a donné et laissé. On le voit ce soir dans les rues de Paris et ailleurs d'ailleurs, dans les mairies d'arrondissement où il y a aussi des cahiers. Mais voilà, les autres.
Il n'y a pas eu de pensée. Non, il n'y a pas eu de pensée chiracienne non plus, quoi. Hein. C'est pas De Gaulle, c'est pas Mitterrand. Il n'y a pas eu ce corpus, en quelque sorte.
Ah, si, pardon. Il y a l'universalisme. Alors, l'universalisme, qui est beaucoup plus important que
Catherine
chez tous
Clément.
Les autres présidents.
Tiens, d'accord.
Et ça, vraiment.
Qu'on voit notamment au musée vertébrale. Du Quai Branly.
Ça, vraiment, là, j'insiste beaucoup parce que qu'on n'avait pas du tout Mitterrand.
Oui,
qui parlait même pas l'anglais, d'ailleurs.
C'est vrai.
Qu'on n'avait pas De Gaulle non plus. Non, lui, il est vraiment universaliste.
C'était un élan.
Au sens moderne du terme.
Un citoyen du monde aussi.
C'était scientifique aussi.
Oui.
Non. Il était scientifique sur ce terrain-là. Il savait absolument tout. Même des détails, des trafics, des antiquités au Mali. Enfin, non. Ça, il ne faut pas. Pardon. Hein.
Non, mais il avait cette volonté, dans un climat où il y a des tensions très fortes entre communautés, Chirac voulait rassembler. Et il voulait, encore une fois, je leur dis, à travers l'art, qui n'était pas qu'un prétexte bobo ou chichiteux, vraiment rassembler les peuples. C'est-à-dire, il disait aux créateurs de ces arts premiers, voilà, vous serez au même niveau qu'un Rubens, au même niveau que la Joconde. Et ça, c'était important. C'est pour ça, d'ailleurs, dans la rue, ces femmes qui disaient le Chirac l'Africain, parce que c'était important pour lui de dire ça à travers l'art.
Rassembler le peuple, rassembler la classe politique, le temps d'un deuil national demain, puisque ses prédécesseurs, Valéry Giscard d'Estaing en l'occurrence, ses successeurs à l'Élysée seront présents lors de l'hommage, lors de la cérémonie rendue à Jacques Chirac, la messe à Saint-Sulpice demain à midi, que vous pourrez suivre sur France Info. Merci à nos informés du samedi, Sarah Pinard, docteur en sciences politiques et directrice des études et prospectives chez Via Voice, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef éditorialiste à La Croix, Raphaël Kahn, présentateur du débat sur France 24, Arnaud Adouin, journaliste écrivain, auteur de Président, La Nuit vient de tomber, et Catherine Clément, philosophe écrivain, auteur de Chirac, Vie publique, Archives privées. Demain, Jean-François Aquili à cette même place. Bonne soirée sur France Info.